Bonjour, vous écoutez Litteramour, le podcast de littérature franco-allemande en compagnie de
Sigrid Brinkmann
et de Clarisse Cosset. Berlin dans la littérature contemporaine française est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui et plus particulièrement le nouveau Berlin. Le Berlin d'après la chute du mur auquel Dorothée Risse et Margaret Zimmermann ont consacré une riche anthologie de textes sous le titre « Berlin bewegt sich schneller als ich schreibe ». Berlin change plus vite que j'écris. Margaret Zimmermann est professeure émérite de littérature française et italienne. Elle a longtemps dirigé le Centre des études sur la France à Berlin et chevalier de la Légion d'honneur. Dorothée Risse enseigne à la Freie Universität. Leur anthologie réunit des textes de 21 auteurs et autrices tels Cécile Weisbrot, Marie Ndiaye, Michel Métaille, Julien Santoni, Patrick Modiano, Philippe Braz, Anaëlle Vanel, Hélène Besançon, etc. Par le passé, les Français et les Françaises n'ont eu qu'un intérêt très relatif pour ce qui n'était encore que la capitale de la Prusse. Balzac, Madame de Staël sont passés par Berlin et en ont fait des descriptions peu élogieuses. Stendhal, bien sûr aussi, qui a pris pour pseudonyme le nom d'une petite ville brandebourgeoise et qui décrit l'arrivée de Napoléon à Berlin en 1806. Mais jusqu'au début du XXe siècle, on ne peut pas dire que Berlin soit une destination privilégiée des auteurs et des autrices français.
La situation change au début des années 20. La vie culturelle devient intense, inventive et expérimentale. La liberté par rapport aux conventions sociales, la liberté d'expression artistique et la liberté sexuelle sont de réels aimants pour nombre d'écrivains et de journalistes français. Cette fascination a été l'objet d'une anthologie passionnante éditée par Margaret Zimmermann sous le titre emprunté à Roger Martin Dugard, Ach wie gut schmeckt mir Berlin, qu'on pourrait traduire par Ah comme j'aime le goût de Berlin.
Le national-socialisme change radicalement la donne et l'intérêt des écrivains pour Berlin s'amenuise, à l'exception de ceux que le régime fasciste intéresse, c'est le cas de Drieu La Rochelle par exemple. Après la guerre, les écrivaines et écrivains français ne font pas de Berlin un objet littéraire. Leurs visites y sont espacées et rares. Mais tout change avec la chute du mur en 1989 et l'anthologie est le reflet de ce nouvel engouement des auteurs et autrices français pour Berlin qui allait bientôt redevenir la capitale de l'Allemagne.
Clarisse est allée voir Margaret Zimmermann pour qu'elle nous parle de ce phénomène que Pierre Assouline a décrit comme l'emberlinisation de la littérature contemporaine.
Il y a vraiment la grande vague de littérature en langue française, bien sûr après la chute du mur, parce qu'il y a bon, tant de changements, et il y a une sorte de rush vers le nouveau Berlin, et tout le monde est curieux de voir ce qu'est devenu ce Berlin, et souvent, bien sûr, on compare aussi. Il y a certains auteurs qui sont déjà venus avant la chute du mur. Par exemple, Christian Prigent, qui était prof au lycée français et qui même a une expérience assez intéressante en tant que membre, je crois, des jeunesses communistes en France et qui a passé des vacances avec des jeunes à Berlin-Est. Mais ça, c'est la grande exception. La plupart viennent pour la première fois après 89.
Et comment est né justement en vous le désir et l'idée de créer cette anthologie-là, d'une part? Quels ont été les critères? Comment avez-vous fait? Parce qu'il y a beaucoup de livres, et comment est-ce qu'on fait pour choisir?
Cette anthologie, bon, en premier lieu, on pourrait dire que cela reflète en grande partie tout un réseau d'amitié et de rencontres. C'est-à-dire, on peut dire que ce qu'a été le Frankreichszentrum, le Centre des études sur la France, qui était une petite structure à la Freie Universität, c'était un lieu où arrivaient aussi des écrivains. Par exemple, on a eu Marie Ndiaye et Cécile Weisbrot ont été des auteurs ou des autrices qui étaient très souvent là pour présenter leurs nouveaux livres. Et j'ai toujours trouvé intéressant ce nouvel intérêt pour Berlin. Et donc, on peut dire que ce livre reflète un peu une sorte de salon virtuel franco-allemand, parce que, bon, on a connu la majorité des auteurs qu'on a publiés ici. Pour les critères, bon, c'est un peu difficile parce qu'on a aussi préparé ce livre, pas seulement, mais aussi sur la base d'un cours avec des étudiants et des étudiantes. C'est-à-dire, on a observé leur réaction au texte et donc si un texte était considéré comme vraiment archi ennuyeux ou autre chose, on l'a peut-être pas tout de suite exclu, mais on a réfléchi un peu là-dessus. Bon, ce qu'on a exclu, c'était des textes qui étaient trop proches de notre regard en tant que personnes qui vivent à Berlin, sur Berlin. Parce que nous répéter des choses que nous, on avait aussi aperçues, perçues, c'était sans intérêt. On voulait aussi un grand choix de points de vue et aussi de points de vue générationnels. Et on ne voulait pas seulement des textes ou des gens qui sont des auteurs, des littérateurs. Donc on a des photographes, on a un philosophe ou plusieurs philosophes, sociologues et bon, bien sûr beaucoup d'auteurs, femmes et hommes. Là, ils sont en majorité, mais pas uniquement. Et du côté des formes, il y a beaucoup de formes de textes qui sont plutôt bon, des structures ouvertes, qui sont souvent fragmentaires, comme des notes de journal ou des récits très brefs, aussi de petits textes, des textes assez courts journalistiques, parce qu'au fond, probablement aussi, ce Berlin qui bouge tout le temps ou qui bouge plus rapidement que je n'écrive, comme l'a dit Cécile Weisbrot, se refuse à une forme trop close, c'est-à-dire se refuse à la forme d'une nouvelle ou aussi à la forme d'un roman trop classique. Bon, on a certains extraits aussi de romans, de Toussaint, de Marie Nidaï et aussi de Jean-Yves Sandré. Mais il y a la majorité de ces regards sur ce Berlin qui bouge, qui est quelque chose qui change tout le temps. Donc ça demande plutôt des formes qui s'adaptent, qui sont des formes ouvertes. Et bon, il y a eu bien sûr aussi des coups de cœur pour Dorothée Ressé et pour moi. On a discuté des textes qu'on a trouvés pour des raisons peut-être un peu aussi personnelles, irrationnelles. Voilà, ce sont quelques-uns des critères.
J'aime Alexanderplatz parce que les gens ne sont ni riches ni pauvres. Ils sont, tout simplement, parce qu'ils n'habitent pas là. Ils passent. Je regarde leurs mines préoccupées et j'ai l'impression d'être comme eux ou qu'ils sont comme moi, seuls et anonymes. J'ai pris un aller sans retour. Il n'y a pas de retour possible. Et lorsque le locataire que je remplace sera revenu, je verrai. Dans ma nouvelle vie, c'est le hasard qui règne. Je ne veux plus rien vouloir car je n'ai voulu que des choses impossibles. Alors je vais vers Alexanderplatz et me fonds dans la foule pour ne rencontrer personne. Alexanderplatz m'absorbe, sa banalité, son absence de beauté, je suis là où je dois être, à ma place. Au milieu se dresse un tronc de béton lisse surmonté d'un satellite métallique qui tourne autour de lui-même et clignote la nuit, lançant des étincelles dans le silence. C'est la tour de la télévision, un relais, une fierté scientifique à l'époque où les hommes croyaient en quelque chose, aux émissions et aux liaisons. Mais pour moi, c'est un veilleur qui pointe vers l'infini, qui m'inquiète et me rassure à la fois. En voyant cette tour, je sais que j'ai raison d'être là.
C'était un extrait de Fugue de Cécile Weisbrot qui figure dans l'anthologie Berlin bewegt sich schneller als ich schreibe, édité par Dorothee Risse et Margarete Zimmermann.
Et donc, en fait, vous avez brassé, récolté, et puis après, enfin, pour imaginer un peu la façon dont ça se fait, après, vous avez décidé d'organiser ça en 5 chapitres. Ça correspond à une certaine récurrence que vous avez pu noter dans la plupart des textes concernant Berlin. C'était une manière d'organiser le livre aussi.
Bon, c'est peut-être aussi un peu une manière allemande de mettre une structure au lieu de présenter les textes comme un bouquet de fleurs, ça aurait été une autre possibilité, une autre variante. Et je crois, dans une première forme, c'était comme ça. Et ensuite, j'ai pensé aussi, on a pensé que pour le lectorat, il serait aussi plus agréable d'avoir un peu de structure. Et bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a constaté qu'il y a certaines scènes clés. Par exemple, bon, il y a l'arrivée. On aurait aussi pu consacrer un chapitre sur l'arrivée en train. Et surtout sur l'arrivée en train de nuit. Tous les Français ont adoré le train de nuit de Paris à Berlin. Et encore même dans le roman ou dans le texte très récent de Camille de Tolède, j'étais contente de retrouver aussi l'arrivée à Berlin en train de nuit. Et donc il y a là toute une communauté de fans de ce train de nuit et on espère bien que ça va renaître un jour. Et il y a aussi bon, le premier contact avec la ville. Il m'a aussi paru important, ça je crois que c'est une idée assez tardive, d'avoir une section qui s'appelle « Liebenswertes » ou « Lebenswertes Berlin », c'est-à-dire de parler, il y a pas mal de textes qui parlent de la qualité de vie à Berlin, et un très beau texte est celui de Christian Prigent, « La douceur de Berlin »,« Disus Berlins », pour voir aussi que ce choc que peut avoir un visiteur, une visiteuse française en arrivant à Berlin, que ça peut être aussi un choc très, très positif.
Berlin est un nid d'âmes mortes, plus qu'aucune autre ville, par le fait d'une histoire passée plus violemment que nulle part ailleurs. Berlin est un feuilleté de temps résolument perdu. À la limite, rien à voir à Berlin, rien que des restes de choses. Rome et Vienne sont sans nul doute des villes au passé, voire au passé décomposé dans l'ennui patrimonial. Paris aussi a plus d'un titre déjà. New York est encore une ville au présent indicatif pressé. Berlin est peut-être une ville au futur. On le dit, on fait tout, politiquement et architecturalement parlant, pour que cette ville, rendue à son leadership administratif, soit une sorte de laboratoire d'urbanisme futuriste. Mais Berlin est plus évidemment une ville au conditionnel passé. À Berlin, on voit surtout ce qu'on aurait pu, voulu, aimer voir, et qu'on ne voit plus.
C'était un extrait de « Berlin sera peut-être un jour » de Christian Prigent.
Ce qui vous a intéressé, vous les éditrices, c'est en fait ce regard extérieur, mais c'était aussi un regard critique.
Mais justement, on voulait ce qu'on a aussi dit dans la préface, on ne voulait pas faire une anthologie de louanges ou d'approche sans aucune perspective critique. Au contraire, on était plutôt étonnés par aussi cet amour de Berlin qui est très présent pratiquement chez chaque auteur et même dans ce jeune Santoni, il y a aussi un amour pour ce nouveau milieu, bon, assez dur, de la Volksbühne dans lequel il est projeté. Mais on sent quand même il y a une fascination ou amour. Bon, là aussi, on pourrait certainement trouver beaucoup de nuances de cette attirance par Berlin qui n'est pas monotone, mais bon, ça serait un autre sujet, un autre discours, mais c'est assez touchant. Ou même quelqu'un aussi chez Claude Lanzmann
qui est venu en 45 déjà
en tant que lecteur à la Freie Universität et qui avait pas mal de problèmes avec les Français, avec le gouvernement militaire français, parce qu'il ne voulait pas qu'il fasse certaines choses. Le cours sur l'antisémitisme que les étudiants lui demandaient, autre chose. Mais je trouve assez touchant qu'il dit « Une fois que j'avais vaincu ma peur de l'Est, j'ai tout de suite aimé Berlin et je l'aime toujours. » Chez les Français, il y a un très fort désir de connaissance et aussi un très fort désir de comprendre historiquement. Bon, j'ai très souvent accueilli aussi dans d'autres cadres plutôt privés, des visiteurs qui arrivaient, mais qui étaient presque comme des éponges et très avides d'en apprendre plus, de comprendre l'histoire compliquée de Berlin, et qui se sont investis aussi énormément à s'approcher de cette ville, à quitter aussi les chemins battus. Et bon, je me suis aussi demandé, ou on s'est demandé, est-ce que les Français ont développé un regard particulier qui les distinguerait d'autres visiteurs? Parce qu'il y a, bien sûr, il y a aussi beaucoup d'Italiens, il y a beaucoup d'hispanophones. À mon avis, les Français ont quand même une très longue culture, une très longue tradition d'observation et aussi d'observation de la grande ville. Ils ont aussi cette tradition de littérature sur Paris, sur l'évolution d'une capitale. Et je crois qu'ils ont un regard particulièrement aiguisé et qu'ils sont des observateurs privilégiés, certainement aussi parce que l'histoire des relations franco-allemandes ne peut pas être comparée aux relations qu'on a avec les Italiens ou avec les Espagnols ou des personnes qui viennent d'Amérique du Sud. Donc c'est différent. Et bon, il y a tout simplement aussi le fait quantitatif, je crois, qu'il n'y a pas autant de textes et une si grande variété de textes qui essayent de saisir ce phénomène de Berlin après la chute du mur. Chez d'autres écrivains, il y en a certains qui sont aussi intéressants, mais il n'y a pas une si grande variété, aussi peut-être une si grande qualité de textes.
Un des auteurs figurant dans l'anthologie est le philosophe Edgar Morin, qui avait fait partie de la Résistance et dont la relation avec Berlin a commencé en 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il était venu y rejoindre l'armée française. Un extrait de son livre « Mai Berlin, 1945 à 2013 ».
Pour moi, la ville morte de 1945, les deux villes mortes en 1989 restent présentes, superposées en ma mémoire, souvent plus présentes que la ville présente. Quelle strate de mort sous une ville aussi vivante! Et ce n'est pas la mort lointaine et mythique d'une civilisation antique ou médiévale, ce sont des morts toutes récentes, à mémoire d'homme. En marchant dans le Berlin si vivant de l'Unter den Linden, j'ai en moi les fantômes du Berlin ruine, des deux Berlins apposés et opposés, planètes issues de deux systèmes solaires éloignés et ennemis, pourtant soudés l'une à l'autre. Du reste, je ne connaissais vraiment que le Berlin Mitte de l'Est et le Kurfürstendamm d'Haarlem-Grunewald de l'Ouest. Je le découvre plus largement, mais incomplètement. Tantôt, je vois une ville merveilleuse avec la Spree, l'Unter den Linden, Grunewald, Kreuzberg. Tantôt, je vois une ville grise et sans âme dans de longs alignements tristes d'immeubles uniformes. La poésie de Berlin est à éclipse. Elle apparaît ici et disparaît là.
Et en même temps, ce qui est troublant, c'est que ça fait un portrait en facette, en fait, de Berlin. Et on a l'impression que chacun a quand même son propre Berlin.
Mmh. Oui, et c'était aussi intéressant de voir, on a parlé tout à l'heure des quartiers de Berlin. Bon, il y a une certaine prédilection sur, bon, Prenzlauer Berg et les quartiers de l'ex-Berlin-Est ou de Mitte. Mais pas seulement, justement, il y a aussi des écrivains ou des écrivaines qui poursuivent ou qui vont à des endroits très peu spectaculaires, par exemple Michel Métaille, qui a cette aventure ou qui se crée elle-même cette aventure que je trouve extravagante et aussi assez amusante. C'est-à-dire, elle se propose un jour ou pendant un certain temps, je suppose, d'aller chercher, d'aller visiter, d'aller vers toutes les rues qui s'appellent Berliner Straße. Déjà parce que, en principe, elle trouve ça bizarre et extravagant parce qu'à Paris, il n'y a pas de rue, il n'y a pas 20 ou 30 rues de Paris. Et donc, elle prend ça comme point de départ. Et là, bon, bien sûr, elle fait aussi ses recherches à Wilmersdorf, elle va à Pankow, mais aussi à des endroits, à Buchholz, à Hermsdorf, toujours à la recherche d'une Berliner Straße, d'une rue de Berlin, qui l'amènerait vraiment au centre. Et bon, bien sûr, le message, c'est aussi que Berlin est tellement polycentrique que toutes ces rues de Berlin, ces Berliner Straßen, finalement, ne mènent nulle part. Oui, pas au centre, en tout cas. Oui.
Elle amène au restaurant chinois.
Oui, c'est aussi un peu parce qu'elle est, sinologue, donc elle a su traduire ce nom de restaurant.
Le restaurant chinois où atterrit la poétesse Michèle Métaille, au bout d'une des multiples rues de Berlin, s'appelle Xinxin, ce qui veut dire félicité en chinois. Nous écoutons Michèle Métaille dire un poème qu'elle avait écrit à Berlin sur la statue d'un homme qui appelle, le Rufa, situé non loin de la porte de Brandenburg, sur la rue du 17 juin.
Qu'un cri détresse à la voix publique, les mains en appellent. Par l'indignation, aspire, il s'espère, s'exaspère, un élan vers lequel geste au moindre manque, écouté, inaudible, tue-tête et se tait. 29 mai 2000, Der Rufer. Statue de Gerhard Marx, Straße des 17. Juni.
En tout cas, ça m'intéresserait de savoir comment vous avez fait le choix des images, et je les trouve très belles. Bon, il y en a certaines qui sont des photographies d'architecture, et puis d'autres qui sont des moments de la vie. Un Fußgänger en train de faire une berline, le contre-jour, on voit un jogger et un cycliste.
Oui.
Et même la couverture, je la trouve très belle, avec cette petite fille qui est là sur le quai du métro.
Oui.
Et une jeune femme avec les cheveux blonds qui bougent.
Oui.
Et le métro qui passe comme
oui.
ça.
Oui.
Ça m'intéresserait de savoir comment vous avez fait ces choix-là.
Oui, bon, d'abord, c'est grâce à l'éditeur, à Wolfram Burkhardt, qui nous a beaucoup aidés. Bien sûr, on a beaucoup discuté et on a dit qu'on ne voulait à aucun prix pas d'illustration, qu'on dit un à un. On ne voulait pas, lorsque ça parlait de Prenzlauer Berg, on ne voulait pas une photo de Prenzlauer Berg. On ne voulait pas une iconographie conventionnelle, on voulait avoir un autre discours, un discours parallèle, mais qui prend quand même ses propres chemins, qui n'accompagne pas seulement, mais qui soit en quelque sorte un discours autonome. Et Wolfram Burkhardt avait un très large choix de photographies qu'on a discutées. Bon, là, pour la couverture, on a pris la décision assez rapidement. C'est quelqu'un, un éditeur, qui adore faire les couvertures. Ça aussi, il faut le dire, c'est plutôt assez rare. Et on voulait aussi un discours photographique qui reflète aussi bien bon, le Berlin jeune, dynamique, mais aussi un discours duquel l'histoire ne soit pas absente. Par exemple, on a une photo qui montre le stade olympique où on sent encore en quelque sorte l'atmosphère 36. Au moins pour moi, c'est très visible. Il y a aussi des photos qui transportent un message ironique, par exemple celui avec l'avion fantôme et bon, qui fait penser à l'aéroport fantôme qui a mis tant de temps, qui à l'époque, lorsqu'on a publié ce livre, n'était pas encore inauguré. Donc là, il y a un jeu, je crois un jeu assez amusant, à plusieurs niveaux, et c'était aussi un plaisir pour nous tous.
Ce qui serait bien, c'est effectivement de faire une collection de ça en français.
Ah oui.
Vous y avez pensé ?
Non, pas encore, parce que le genre anthologie n'est pas le genre préféré des éditeurs. Bon, il faudrait trouver quelqu'un, ça serait un rêve, et je crois que ça serait assez intéressant aussi pour les multiples visiteurs français qui connaissent Berlin, et aussi pour les auteurs, ça serait bien de se voir présenter dans ce livre qu'on pourrait à la rigueur, ou pas seulement à la rigueur, qu'on pourrait élargir un peu avec des textes qui viennent de paraître pour montrer encore que Berlin est toujours en train de bouger. Mais ça, bon, il faudrait voir qui pourrait s'intéresser à ce livre, et ça aussi dans cette situation de Corona, où il n'y a pas de foire au livre. On a raté déjà la foire de Leipzig et bien sûr aussi celle de Francfort. C'est un peu difficile.
Est-ce que vous avez l'impression que Berlin continue à attirer des auteurs français ?
On pourrait faire un pari là-dessus. Il est difficile de dire ça avec décision. Moi, je crois que Berlin, bon, si la ville ne change pas trop dans la direction, disons, si la ville n'évolue pas dans la direction de monotonie culturelle, immobilière et autres, si Berlin continue à être un ensemble d'espaces aussi plus ou moins autonomes en mouvement, qui bouge, qui continue de bouger, je crois qu'il restera un centre d'attraction, et pas seulement parce que certaines choses sont encore plus faciles ici. On ne sait pas pour combien de temps la situation sur le marché immobilier, l'accès à la culture est beaucoup plus facile qu'à Paris ou qu'à Londres. Je crois que Berlin gardera son attrait et peut-être restera aussi productif au niveau des textes ou au niveau de l'art. Mais bon, ça dépend de la direction que va prendre cette ville. Dans 10 ans, on peut se reparler. Hein, c'est...
Nous nous reparlerons très volontiers dans 10 ans, et d'ici là, nous continuerons, nous aussi, à observer la production de textes littéraires se rapportant à Berlin. Comme l'anthologie a été publiée en allemand, nous avons listé les auteurs et leurs textes sur notre page web afin de vous faciliter l'accès aux livres. Avant de nous quitter, n'oublions pas notre rubrique « Coup de cœur ».
L'immense coup de cœur que j'aimerais partager avec vous va au livre « Filles de France » d'Elisa Diallo, paru en 2019 aux éditions Flammarion et dont la traduction vient de paraître chez Berenberg. Ce petit livre de 155 pages fait d'une part le récit détaillé des étapes qui ont mené Elisa Diallo à l'obtention de la nationalité allemande en 2017. D'autre part, c'est une réflexion sur les clichés en vigueur en Allemagne, selon lesquels la France aurait réussi l'intégration de la part de sa population venant des anciennes colonies, et l'Allemagne serait encore et toujours un pays raciste. Elisa Diallo a étudié la littérature comparée en Hollande et travaille depuis plusieurs années dans le milieu de l'édition en Allemagne, où elle se sent mieux qu'en France, où elle a grandi. Sa mère est française, son père était guinéen. Dans « Filles de France », elle dénonce le racisme dont elle a été victime quasi quotidiennement, que cela soit en France ou en Allemagne, mais au-delà de son expérience personnelle, elle questionne le racisme structurel immanent à la façon dont l'Europe s'est construite et dont nos sociétés continuent de fonctionner. Son livre est un appel à repenser nos rapports humains, quelles que soient nos origines.
Bon, alors déjà en écrivant, effectivement, je me suis dit que c'était un constat désolant que je faisais pour moi et pour la France et pour l'Europe en général. Et en même temps, je suis pas complètement pessimiste ni abattue. Au contraire, en tout cas, pour ce qui est de l'Allemagne, je vois vraiment un chemin. Mais je me suis rendu compte que j'avais l'impression de briser un tabou pour moi, en tout cas, d'accuser la France, l'État français, la société, l'école où j'ai été, de m'avoir toujours fait sentir que j'étais pas vraiment chez moi en France. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était tabou en France, que j'avais jamais su formuler parce que, en fait, il y a une grosse interdiction de formuler ces choses-là en France. L'interdiction, elle est évidemment pas formelle, mais elle est sous forme de dénégation constante. C'est pas vrai. Alors, ça peut être juste en passant, t'as mal compris, ou en quelques idiots, mais ça veut rien dire, etc., à une vraie forme de dénégation agressive dès qu'on se met à avoir un discours un peu politique.
Elisa Diallo, l'autrice du livre « Filles de France ». Nous voici arrivés à la fin de notre épisode. N'hésitez pas à parler de Litteramour et à le faire connaître à vos proches.
Le mois prochain, nous vous emmènerons en promenade dans Berlin en compagnie d'Irina Lippmann et de Pedro Cadivar. D'ici là, nous vous souhaitons de belles lectures. C'était Litteramour en compagnie de Clarisse Cosset
et de Sigrid Brinkmann.